avec Hélène Denis.
C'est le 21 janvier 2026. J'espère que vous allez bien. On est bien dehors. Là, il faut en profiter parce que paraît-il que ce sera glacial à partir du week-end. Mais je sais que ça fera un homme heureux. Et j'ai nommé Mathieu Tessier. Bonjour Mathieu.
Ça. Oui, bonjour Hélène. Bonjour tout le monde.
Bonjour à tous. Bonjour Serge Bradet.
Bonjour, bonjour.
Serge, vous allez nous raconter une belle histoire.
Oui. Qui à Montréal n'est pas allé à la Binerie Mont-Royal au moins une fois dans sa vie?
Je suis pas allé encore.
Non?
Je passais devant hier et je me disais, il faudrait bien que j'aille faire mon tour. Vous, je pense que c'est un...
Je vais aller assez souvent. Une fois ou deux, oui, mais il y a plusieurs années, quand ils étaient sur la rue Mont-Royal.
Oui. Oui.
Mais là, maintenant, ils sont déménagés sur Saint-Denis, dans un local plus grand.
Oui.
Mais c'est le même menu.
Oui, et hier, je lisais sur la vitrine, sur la fenêtre principale, ici, nous mangeons des mets canadiens.
Oui.
Alors, ils nous encouragent
oui.
à manger local, si je peux dire. Mathieu, êtes-vous un habitué, vous?
Non, je ne crois pas. Je pense que je suis allé une fois.
Ah oui?
Depuis 25 ans.
Bon, mais il faut avoir le goût de manger quelque chose d'assez lourd,
oui,
là,
oui,
les déjeuners
oui,
du bûcheron,
le
etc. Tourtière,
pâté chinois.
Alors, vous allez nous raconter l'histoire de la binerie?
Oui, l'histoire de la binerie de Montréal. Ce n'est pas un article très long. Alors, je vais compléter avec des petits moments pour nous instruire tout le monde, entre autres l'origine de certaines expressions. Gros gens comme devant. Aussi.
Est-ce qu'il était vraiment gros gens?
Oui.
Plus de devant que de derrière.
L'argent n'a pas d'odeur, etc.
OK, parfait. Et il y a celle qu'on entend rire, Isabelle Falardeau, qui nous parle en direct de chez elle. Isabelle?
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors aujourd'hui, alimentation pour chat.
Ben oui, mon chat adoré nous a quittés la fin de semaine dernière. Ça m'a donné envie de parler des chats et de comme mon sujet c'est l'alimentation, j'ai trouvé une liste d'aliments qu'il faut absolument pas donner aux chats. Donc peut-être pour éviter à certaines personnes de vivre un deuil prématuré comme moi, bien qu'il n'y ait aucun lien là, de mon côté entre l'alimentation et son décès.
Bon, bien toutes nos condoléances pour la perte de votre chat. Vous l'aviez depuis combien de temps?
14 ans et demi.
Oh.
Ouais.
Oui, ouais. Je l'avais nourri au biberon. Là. Il avait été abandonné à la naissance.
Ah
donc,
oui?
Ouais, c'était mon petit bébé.
Il est mort de quoi?
Une confluence de plein de choses, mais il avait des problèmes de cœur puis de poumon quand on l'a amené d'urgence chez le vétérinaire. Donc, voilà. Mais ça fait partie de la vie. Hein.
Oui, Bazooka quand est maintenant au paradis des chats.
Voilà, exactement.
Merci, on se retrouve tantôt. Et qu'est-ce qu'il y aura aussi au menu? On aura une rencontre avec une actrice que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Catherine Paquin-Béchard et elle joue dans la pièce « À toi pour toujours, ta Marie-Lou » de Michel Tremblay, un grand classique qui va prendre l'affiche du Théâtre du Rideau Vert le 28 janvier. Et elle sera avec nous autour de 9h45, donc dans quelques minutes. Et nous aurons aussi la chronique cinéma avec Louise Véronique Sicotte qui a vu trois films. Donc, Chronique d'une ville de Nadine Gomez et Capitaine. Alors, plus de détails avec cette chroniqueuse cinéma qu'on aime beaucoup, qui vient nous visiter une fois par mois vers 10h30. Et on commence avec une chanson que vous connaissez sans doute, qui a été revisitée par Lord. Et on entend aussi celle qui l'a créée, finalement, Ariane Moffatt.
Ma musique sauvera pas des vies à part la mienne peut-être, mais selon les probabilités, ça risque d'être un peu tête. Si je me fie aux analystes, j'aurais plus de chances de m'éteindre sur le champ que de faire deux fois la liste. Chaque fois qu'on bat le karma, crois-moi, c'est de toute beauté. Je m'en fous d'être sous-coté tant qu'on met des sous de côté. Parce que statistiquement parlant, ma carrière devait finir à 34 ans. Encore un tour de magie, encore un tour de France. Encore au goût du jour, ça doit être mon jour de chance. Encore un tour de force, fait tourner la roue de fortune. Chaque matin, je poursuis mes rêves, snooze button. Encore un dernier verre, la fête est jamais finie. Get rich or die, try and stay un 50-50. Encore du mal à croire qu'on en est sorti sain et sauf. Comme quoi, des fois, le hasard fait bien les choses. Sauvera pas
pas des vies peut-être à part la tienne. Et si c'est tout ce que j'accomplis, ça peut valoir la peine. Je suis pas à plaindre, j'ai déjà gagné mon ciel. L'exception à la règle, pourtant j'ai rien d'exceptionnel. This hometown hero retourne à ground zero, sachant que mes enfants seront confos quand ils grandiront. Pourtant, statistiquement parlant, j'aurais dû faire le deux tiers de mes parents. Encore un tour de magie, encore un tour de table. On est encore en business, ça doit être un jour ouvrable. Encore un coup de dé, encore un coup du destin. J'en suis 60% sûr, 40% certain. Encore un dernier verre, un peu d'eau dans mon vin. Ça m'a permis d'enfin pouvoir le voir à moitié plein. Encore du mal à croire qu'on en est sorti sain et sauf. Comme quoi des fois le hasard fait bien les choses. On est encore en business, ça doit être un jour ouvrable. Encore un coup de dé, encore un coup du destin. J'en suis 60% sûr, 40% certain. Encore un dernier verre, un peu d'eau dans mon vin. Ça m'a permis d'enfin pouvoir le voir à moitié plein. Encore du mal à croire qu'on en est sorti sain et sauf. Comme quoi des fois le hasard fait bien les choses.
À la une de la presse plus d'aujourd'hui, discours choc, l'ancien ordre international fondé sur des règles ne reviendra pas, a martelé Mark Carney devant un parterre de leaders mondiaux qui l'a ovationné. Le premier ministre a appelé les États à s'unir pour mieux contrer l'intimidation des puissances hégémoniques. Et il y a des chroniqueurs qui s'expriment sur ce discours, disent ce qu'ils en pensent, l'analyse, dont Yves Boisvert, Requiem pour la Pax Americana. C'est à lire dans la presse plus d'aujourd'hui. Et Yves Boisvert écrit « Quand on n'est pas à la table, on est sur le menu », a dit Mark Carney à tous les pays qui ont l'impression de se faire dévorer par Donald Trump. Traduction « N'ayez pas peur, c'est la peur elle-même qui nous rend vulnérables. Je ne me souviens pas d'un discours plus grave, plus lucide, plus important livré par un premier ministre canadien », écrit Yves Boisvert. Ça fait la une aussi du Devoir d'aujourd'hui, Forum économique mondial. À la table, plutôt qu'au menu, c'est Sandrine Vieira, qui est correspondante parlementaire à Ottawa, qui écrit le texte. Le premier ministre canadien n'a pas mâché ses mots à l'endroit de son voisin du Sud. Dans une nouvelle ère géopolitique brutale, les pays doivent désormais faire front commun contre les puissances hégémoniques qui recourent à la coercition économique, a déclaré mardi Mark Carney dans un discours coup de poing prononcé devant le Forum économique mondial. Les puissances intermédiaires doivent agir de concert, car si vous n'êtes pas à la table, vous êtes au menu, a lancé sans détour le chef du gouvernement mardi depuis Davos en Suisse, sans nommer explicitement les États-Unis ou leur président. Mark Carney a dénoncé les grandes puissances qui ont commencé à utiliser l'intégration économique comme une arme, les tarifs douaniers comme levier, l'infrastructure financière comme outil de coercition et les chaînes d'approvisionnement comme des vulnérabilités à exploiter. Soyons clairs, nous sommes au cœur d'une rupture et non d'une transition, a-t-il déclaré devant un parterre regroupant l'élite économique et politique mondiale. C'est à lire aussi dans Le Devoir et on publie également le discours au grand complet, notamment dans la presse plus d'aujourd'hui. À la une du Journal de Montréal maintenant, Samuel Rochon, 31 ans, que l'on voit en photo, il est au Vietnam, a lancé une campagne de financement après le refus de Québec de payer un traitement pour son cancer du cerveau. Atteint d'un cancer du cerveau agressif, un jeune homme déplore le refus de Québec de couvrir un traitement à 27 000 $ par mois qui pourrait lui offrir plusieurs années de vie supplémentaire. « Je me sens insulté, abandonné. Je trouve ça ridicule qu'en 2026, on refuse un traitement qui fonctionne. C'est comme si on attribuait une valeur monétaire à ma vie, confie au journal Samuel Rochon, qui est atteint d'un glioblastome de grade 4, la forme la plus agressive du cancer du cerveau. Lundi, il a lancé une campagne de sociofinancement sur Internet dans le but d'amasser les fonds nécessaires au traitement. En date d'hier, il avait déjà atteint le tiers de son objectif de 300 000 $. En gros, on juge que ma vie ne vaut pas 27 000 $ par mois, a-t-il écrit sur la page GoFundMe qu'il a créée. Je le fais pour moi, mais je veux aussi faire connaître la cause pour les autres qui n'ont pas l'opportunité d'être entendus, affirme le résident de Nomineng dans les Laurentides. Ses premiers symptômes sont apparus en 2016 alors qu'il souffrait de maux de tête persistants. Après plusieurs examens, M. Rochon subit une importante chirurgie suivie de 25 traitements de radiothérapie et de chimiothérapie. Contre toute attente, il a survécu plus de 8 ans, alors que moins de 5 % des personnes atteintes de cette maladie passent le cap des 5 ans. Le 1er janvier 2025, le cancer a toutefois récidivé et l'homme de 31 ans a dû subir une nouvelle opération et plusieurs traitements. Même si son état est stable, c'est une certitude qu'un jour ou l'autre, il y aura une autre récidive. C'est pourquoi le casque Optune est apparu comme une solution prometteuse. Le casque Optune, c'est un dispositif à batterie posé sur le cuir chevelu qui émet des champs électriques alternatifs, doit être porté 18 heures par jour et il permet de tripler l'espérance de vie lorsque porté 90 % du temps. Il est approuvé par Santé Canada depuis 2022 et il est utilisé dans plusieurs pays développés.
On ne peut plus rien faire.
Marco et moi, j'écoutais la chanson, c'était Anyway Mommy Love.
Ben oui, ça vous faisait rire, Mathieu?
Oui.
OK. C'est vraiment une nouveauté, hein. Ça fait partie de son nouvel album qui est très, très bien reçu autant par la critique que par le public. Et devant moi, je ne sais pas si vous avez dû traverser le pont Jacques-Cartier qui est fermé dans les deux directions, en tout cas jusqu'à maintenant, là, étant donné qu'il y a eu un incendie qui est en cours, qu'on est en train d'éteindre, là. Mais elle est devant moi et vous la connaissez sans doute. On l'a vue beaucoup, beaucoup à la télévision et ça continue. Et elle s'appelle Catherine Paquin-Béchard. J'espère que je ne me trompe pas.
Ben non, pas du tout.
Non, parce que je me disais, est-ce que c'est Béchard-Paquin? Je n'ai pas le nom devant moi.
Paquin-Béchard.
Bonjour, allô. Catherine. Merci d'être là. Est-ce que vous avez dû traverser le pont? J'imagine que
pas
non.
Pas du tout. Je trouvais qu'il y avait anormalement peu de gens sur la route. Ça a super bien été. J'ai appris en entrant dans le studio qu'il y avait un incendie en ce moment. Je ne savais pas du tout.
Ah, OK. Ça veut dire que le pont est ouvert.
Non, je pense que le pont est fermé, mais je pense que tout le monde est allé soit sur le pont Champlain ou sur le pont...
Oui, oui, oui.
Ils
ont détourné le trafic. Alors, on n'est pas là pour parler circulation.
Ah non!
Mais plutôt de la pièce dans laquelle vous allez jouer « À toi pour toujours, ta Marie-Lou ». Quand on vous a appelé pour vous proposer ce projet-là, parce que c'est un grand classique de Michel Tremblay qui va célébrer ses 55 ans là, cette
oui.
année, qui avait présenté donc au Rideau Vert à partir du 28 janvier, comment vous avez réagi?
Oh mon Dieu, mais... C'est drôle parce que je jouais dans une pièce de théâtre avec Henri Chassé, le metteur en scène.
Oui.
Puis il m'a comme proposé ça tout de go dans un lift en voiture, très spontanément.
Oui.
On était assez proches, puis on faisait des blagues. On s'entend super bien. Puis
ouais.
il me dit « Hey, toi, là, ça te tenterait-tu, là, mettons, de jouer Manon dans... » Puis au début, je pensais qu'il me niaisait. Je fais « T'es sûre? » Tu sais, on dirait que j'étais comme pas sûre.
Parce que quoi, Manon, ça n'a aucun rapport avec vous?
Ben oui, c'est
avec les personnages que vous nous avez déjà proposés.
Ben je trouvais que c'était pas comme un contre-emploi, mais spontanément, moi, j'ai joué Carmen à plus à l'école de théâtre. On dirait que là, s'il y avait un personnage de Tremblay qui me collait à la peau, moi, c'était Carmen.
C'était plus Carmen que Manon.
Fait que de me faire offrir, en plus, le rôle de Manon, j'en revenais pas. J'étais tellement contente. Il me dit, oh, tu peux prendre le temps de lire la pièce puis de me revenir. Puis j'ai dit, non, 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 je te dis oui tout de suite.
Ah oui, ah oui.
Oui, tout de suite dans le char parce que c'était trop une belle occasion.
Vous le regrettez pas?
Oh mon Dieu, non. Non, 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 non. C'est vraiment un beau cadeau qu'Henri m'a fait. Un très, très beau rôle, un très, très beau personnage. Un autre genre de travail aussi, vu justement quelque chose d'un petit peu plus loin de moi,
oui.
Que j'ai moins fait en jeu. Fait que
est-ce que c'est un défi plus compliqué, plus exigeant, étant donné que justement, c'est pas un personnage que vous jouez naturellement, mais vous êtes une comédienne, vous pouvez tout jouer, mais c'est pas vers là qu'on vous voit habituellement.
Je pense que je l'ai abordé au départ comme ça. Je me dis, oh mon Dieu, c'est... Mais finalement... À force, dans le travail et tout, là, on est en entrée en salle aussi. Fait que là, c'est le petit travail vraiment de précision. Là. Une semaine avant le spectacle, là, on est dans les détails.
Ouais.
Puis je me rends compte qu'elle est moins loin de moi que je pensais.
Ah oui?
Fait que c'est surprenant, ça. C'est merveilleux pour ça, le travail au théâtre. Pour ça, on a le temps de se poser des questions. On a le temps d'aller travailler dans, justement, les subtilités du jeu et tout ça.
Mm-hmm.
Puis oui, j'ai moins, c'est plus facile que ce que je pensais maintenant.
Est-ce que c'est une pièce que vous connaissiez?
Oui.
Étant donné que vous avez joué Carmen à l'école, avez-vous fait l'école nationale?
J'ai fait l'école de théâtre de Saint-Hyacinthe.
OK.
Ouais. Et ma pièce ce qu'on appelle les scènes qu'on présente au théâtre de Catsou, qui est comme nos auditions face au monde quand on finit l'école,
ouais.
J'ai joué Sainte-Carmen-Lamaine. Alors moi, l'univers de Tremblay, je le connaissais, Carmen, tout ça. Mais oui, À toi pour toujours, Marie-Lou, je pense aussi que c'est encore une pièce qui étudie... À l'école, là, c'était une pièce au secondaire ouais. qu'on lisait. Là, fait que
Est-ce que vous l'avez déjà vue sur une scène, cette pièce-là
je
qui a été présentée à quelques reprises?
Je l'ai vue au TNM. Oui,
ah,
c'est
ouais?
ça, la dernière mouture, je pense, qui était au TNM.
Oui, au TNM.
Peut-être 10 ans, 12 ans.
À peu près,
ans, là,
le
oui.
temps file.
Le temps file, oui, le temps file. Et c'est curieusement une pièce qui n'a pas été beaucoup montée. Je crois que, si je ne me trompe pas, je ne veux pas dire n'importe quoi, je pense que c'est la troisième fois qu'elle est montée seulement depuis sa création.
Bon, il était temps.
Oui, bien... Ouais. Ou pas, parce que je veux dire,
est-ce que vous trouvez que c'est toujours actuel?
Mais c'est ça qui est bien malheureux, c'est de se rendre ouais. compte que, oui, les thématiques sont encore très... Mais tu sais, Tremblay, c'est ça, on pense qu'on connaît Tremblay, on pense qu'on sait Tremblay, puis là, on replonge dans Tremblay, puis on fait, mon Dieu, qu'il y a des couches, mon Dieu, que c'est encore, ça résonne beaucoup aujourd'hui.
Qu'est-ce que ça raconte? Comment vous...
C'est un... Ben, écoutez, un
bon, vous comprenez
un,
la
un,
pièce.
Un bon drame familial, hein, comme on en a vu beaucoup, mais ce qui est intéressant...
Bon,
c'est...
je sais pas.
Ben, non, c'est
ouais,
ça,
ouais.
Je... plus dans le sens que...
Ouais, ouais.
On dirait qu'on est bon au Québec, là, là-dedans, là,
ouais.
Dans les drames familiaux. Mais encore une fois, je trouve le génie de cette pièce-là, c'est de dire... pas que ce qu'elle veut pas dire, mais il y a beaucoup de... C'est une pièce de non-dit, puis il y a beaucoup de sous... de non-dit, puis de choses qu'on dit pas ou de choses qu'on dit sans le dire, là, tu sais. Puis c'est encore très... c'est écrit très subtil et très... voyons, je manque les mots ce matin, là, mais je trouve que c'est vraiment écrit...
Mais comme vous parliez, vous disiez tantôt qu'il y avait plusieurs couches,
oui,
de
c'est
sens.
Ça, exact.
Il y a des choses qui sont non dites, mais qu'on peut deviner.
Exactement, oui, oui, oui.
Il y a des choses qui sont dites, qui ne sont pas nécessairement celles qu'on voudrait exprimer.
Et voilà, vous
ouais,
êtes, vous êtes meilleure
on est...
que moi.
Non, non, pas vraiment. J'essaie un peu
oui,
là,
oui.
De comprendre. Ben, de comprendre. C'est parce que Michel Tremblay est dans le tabou, mais à un moment donné, ça explose,
c'est
tout ça. Là.
Exactement. C'est une de ses grandes forces. De, on a beaucoup de non-dits, puis à un moment donné, ah, ça explose, puis là, on se dit les vraies affaires, puis là, on n'a plus de fil, puis là, c'est ça
ouais.
qui est vraiment intéressant. Puis à toi pour toujours, ta Marie-Lou, je pense que c'est une pièce... Il a écrit, c'est sa troisième pièce. Il l'a écrit très jeune, je pense, à 28... Même pas 30 ans, là, tu sais.
Il est né en 42, c'est une pièce qui a 55 ans cette année.
Fait que c'est dans ses... Oui, moi, je peux pas faire ça, là, le calcul mental. Je peux pas faire ça.
Mais il était jeune.
Mais il était très jeune. Oui, je pense que c'est ça, 28-27 ans. Et on sent ça dans son écriture, l'espèce de... On fait des blagues en répétition. On dit que c'est comme un vomi, cette pièce-là. Il y a comme une espèce d'urgence.
Ah, oui,
elle
ça
est
sort
vraiment...
d'un gil.
Oui, c'est ça.
Ouais.
C'est une scène, en fait. La pièce, c'est un moment entre quatre personnages, et ça se sent dans l'écriture que c'est comme un geste, c'est comme... Fait qu'il y a cette drive-là, cette force-là d'exprimer. Fait qu'on est dans le non-dit un petit peu, mais c'est pas long qu'on s'enligne les yeux dans les yeux puis qu'on se dit ce qu'on a à dire.
Oui. Mais comment ça se passe sur la scène, là? Vous parliez d'Henri Chassé qui signe la mise en scène. Il y a différentes époques, hein?
Si je peux expliquer sans
je me rappelle
trop
bien.
Ouais. divulgacher, ouais. il y a des détails, ça se passe, il y a donc deux conversations en parallèle. Il y a quatre personnages qui s'adressent, qui ont des discussions, mais c'est deux conversations en parallèle qu'on suit, qui n'ont pas lieu en même temps.
OK. Donc, il y a Léopold
et
son époux,
et Marie-Louise,
incarné par...
Michel Charette et Madeleine Péloquin,
oui.
qui sont les parents.
OK.
Et,
eux, ils discutent ensemble.
Eux, ils discutent ensemble.
Quand ils sont capables de se parler.
Ils sont capables de se parler,
ouais.
exactement, dans leur langage coloré.
Et il y a Carmen et Manon, qui sont les enfants de
exactement.
Léopold et Marie-Lou.
Les deux filles qui, elles, discutent en parallèle d'autres choses et de...
Elles ont quel âge, environ?
Elles ont fin vingtaine.
OK.
Ouais,
vous avez
ouais.
pas mal l'âge de votre personnage.
Oui, 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 oui. Ouais.
Ouais.
Un petit peu plus vieux. Quand même, un petit peu plus vieux.
Donc, il y a une espèce de dialogue entre ces deux
exactement.
Entités-là.
Oui,
si on peut dire.
Il y a des thématiques, donc, évidemment, qui sont recoupées au travers de ces conversations-là, mais on comprend vite qu'on parle du même événement à deux moments différents.
Oui, oui. Alors, j'imagine que ça demande énormément d'écoute.
Oh mon Dieu, oui, comme jamais j'ai eu affaire au théâtre, je vous dirais, c'est ça le défi principal, parce qu'on
oui.
est quatre tout le temps ensemble, et comme on n'est pas en conversation les quatre ensemble, il faut vraiment se brancher chacun sur notre partenaire, et ça demande une écoute du tonnerre à un niveau vraiment, parce que d'habitude, quand t'as un acteur qui te donne une réplique, ben tu y réponds, mais
ouais.
là, il faut comme écouter la conversation sans écouter la conversation, parce qu'on répond pas à l'autre conversation. Il faut rester
oui.
sur notre partenaire.
Donc, il faut connaître les textes de tout
ben,
le monde
c'est
pratiquement
comme,
par cœur.
C'est exactement ça. Il faut comme apprendre le show par cœur, au final, pour savoir, oui, quand parler, mais aussi de maintenir le fil de la conversation
ouais.
avec son partenaire. C'est vraiment une écoute 360 très particulière qui demande une énergie. On est brûlé après chacune des répétitions. On est fatigué parce que ça demande vraiment un tonus.
Une concentration
ah, ouais, ouais.
Extrême.
Oui, vraiment.
Mais ça doit être quand même stimulant
ben,
aussi de jouer
c'est
de cette
que,
manière-là.
Ben,
là.
C'est ça qui est le fun aussi du théâtre. C'est que c'est du domaine athlétique là, quasiment. Là. Je veux
ouais.
dire, ça demande vraiment un autre genre d'énergie, un autre genre de présence. C'est, on parle de... Oui, on est comme des petits athlètes, là, un peu. Ça demande un focus, une concentration, une hygiène de vie.
Oui, hein?
On joue au théâtre le soir, en janvier aussi, quand l'énergie est au plus bas. En tout cas, pour ma part, ça demande
le
vraiment...
Le sommeil, la bonne alimentation.
Vraiment,
un peu de sport.
Oui, il faut comme vraiment rentrer dans un...
T'es habillé en jogging, là?
Oui, pour rien. Bon. Là, je suis en confort. Moi, je vais confortable dans ce temps-là.
Et de partager la scène avec ces acteurs-là, est-ce que vous les connaissiez, Michel Charette, Madeleine Péloquin et Rose-Anne Derry?
Oui. Qui joue ma sœur, Carmen. Oui, on s'était déjà croisés à plusieurs reprises. J'ai déjà travaillé un petit peu avec Madeleine. Rosanne, on a un paquet d'amis communs. On se croise souvent, puis on avait hâte de... Ça fait longtemps qu'on se disait, hey, nous deux, on pourrait jouer des sœurs. Hein, on l'avait déjà un peu calé. Là, oui. Fait qu'on était vraiment contentes de se retrouver. Fait que oui, c'est une super gang. Vraiment, moi, je suis toujours bien impressionnée de rencontrer des acteurs de talent puis de pouvoir échanger la balle avec eux, même si là, je suis plus avec Rosanne, mais on a une super ambiance de travail. C'est des très bons partenaires.
Et c'est votre première fois au Théâtre du Rideau Vert.
Oui, c'est mon premier Rideau Vert.
Qu'est-ce que ça vous fait?
Hey, je suis bien émue. J'étais juste au début, chaque étape, la salle de répétition qui est restée comme un endroit mythique. Il y a plein de photos. T'sais, on sent qu'il y a des grandes âmes qui sont passées entre ces murs. Moi, j'étais bien émue de ça. Puis même chose en arrivant en salle, les loges, je suis allée voir souvent des spectacles au Rideau Vert, mais de prendre possession des loges, d'être là, faire que c'est à mon tour, d'être là. Je suis très, très, très reconnaissante et émue de ça. Je parle aux fantômes. je l'essaie de les mettre de mon bord. Je me dis,
ah. Ah oui, ça vous inspire.
Oui, vraiment beaucoup. Oui. Ouais.
Et qu'est-ce que... Le théâtre, est-ce que ça occupe beaucoup de votre temps? Parce qu'il me semble qu'on vous voit à la télévision. Là. Qu'est-ce que vous faites exactement à la télévision en ce moment?
En ce moment, c'est Indomptable à TVA.
Oui, que je n'ai pas encore regardé. Je veux le regarder en rattrapage. On est très sollicité par toutes les plateformes, mais c'est important aussi de regarder nos séries au Québec qui sont vraiment bonnes. L'écho est bon en ce qui concerne cette télésérie-là. Une distribution extraordinaire. Là, vous jouez avec Benoît Gouin, notamment, et Stéphane Demers.
Vraiment.
Donc ça vous occupe ou ça vous occupait?
Oui, on reprend justement, on a tourné la moitié en fait des épisodes et là, on reprend en avril, donc juste après ma pièce au Rideau Vert. Donc c'est bien, cette année mon horaire est bien compartimenté.
Oui, tant mieux parce que le théâtre, ça vous demande énormément de discipline et d'énergie. Là. Alors avoir 2-3 projets de front, ça serait impossible.
Mais
là.
Des fois, on le fait parce qu'on n'a pas le choix.
Vous n'avez pas le choix.
On ne choisit pas puis on se trouve bien chanceux quand on a plus d'un contrat. Fait que quand on le fait, on le fait. Puis on se retrousse les manches. Mais c'est sûr que là, quand on a le privilège d'avoir du travail tout bien par compartimenté, c'est le fun. Là,
bon, mais c'est le cas cette année pour vous.
Oui, bien oui.
Mais tant mieux. Alors, je vous dis le mot de cambronne.
C'est accepté.
Oui, parce qu'il ne faut pas dire merci. Et je rappelle que c'est À toi pour toujours, ta Marie-Lou, qui prend l'affiche du Théâtre du Rideau Vert très bientôt, le 28 janvier. Vous n'avez pas fait d'avant-première encore?
Pas encore, dans une semaine, oui.
OK, vous avez hâte de rencontrer le public?
Oh mon Dieu, oui, on est prêts, là.
OK, bon, mais ça, c'est bon signe. Et c'est donc Catherine Paquin-Béchard qui nous parlait de cette pièce et qui la joue aux côtés de Rose-Anne Derry, Michel Charette ainsi que Madeleine Péloquin. Ça devrait être bon, ça, comme show.
Ah, ça va être bon.
D'un certain Michel Tremblay.
Un jeune qui commence.
Oui, je ne sais pas, est-ce qu'il va être dans la salle le soir la
première? J'espère, j'aimerais beaucoup ça.
Oui, ça vous figerait pas, ça vous donnerait l'énergie.
Oh mon Dieu, oui. Oui.
Ah, mais mon petit doigt me dit que, vu qu'il a vendu, je pense, sa maison Key West, peut-être qu'il sera là, on ne sait jamais, même si on annonce des temps assez froids.
Oui.
Merci, Catherine Paquin-Béchard.
Merci à vous.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux.
Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, y a rien à dire, y a rien à faire pour eux.
ce sont des gens qui s'aiment.
Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux.
Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux.
Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles?
Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'on nous donne en modèle.
Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu cruels quand ils vous parlent d'eux? Y a quelque chose qui vous éloigne.
Ce sont des choses humaines.
Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux.
On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux.
Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux.
Quel que soit le temps que ça prenne,
quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux.
Julien Doré, Francis Cabrel, la chanson « Un homme heureux ».
Oui, une belle reprise d'une chanson de William Scheller. Isabelle Falardeau, vous êtes là?
Oui, oui, vous m'avez mis un peu de larmes dans les yeux avec cette chanson.
Une belle mélancolie, j'espère.
Oui, oui, quand même.
Ouais. Alors Isabelle, aujourd'hui, le top 10 des aliments des fêtes dangereux pour votre chat, même si les fêtes sont derrière nous, les conseils sont toujours valides.
Oui, puis vous allez voir, c'est vraiment des aliments de tous les jours, donc c'est toujours important de savoir. Je ne sais pas si autour de la table, vous avez des animaux de compagnie.
Non, mais je connais plusieurs personnes autour de moi qui en ont, des animaux de compagnie.
D'accord. Donc, il y a peut-être des aliments. Là,
Serge a un chat.
Oui,
Serge
a un chat. Une belle petite Minette. Oui.
Elle s'appelle Minette?
Ivy, elle s'appelle la petite Minette.
Il ne faut pas donner à votre chat, absolument pas.
Oui, Isabelle, est-ce que vous comprenez ce que Serge a dit?
Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a parlé de son chat. C'est une Minette qui s'appelle?
Ivy.
Ivy.
Oui, Ivy,
c'est un très beau nom. Non, excusez-moi, on s'est croisés dans nos répliques.
Oui,
ça arrive.
Donc, est-ce que vous savez quel aliment ne pas donner à votre chat, Serge?
Moi, le vétérinaire, c'est un chat que j'ai eu, elle avait 4 ans, puis la dame la nourrissait avec une sorte de nourriture, et j'ai gardé la même nourriture, je l'achète chez le vétérinaire.
D'accord, donc la nourriture pour chat, mais la nourriture pour les humains, il y en a, les chats peuvent manger certaines nourritures, mais il y en a que, en tout cas, moi, je connaissais déjà le chocolat. Donc, je pense que pour les chiens non plus, c'est vraiment pas bon. Le chocolat, c'est un aliment qui est particulièrement toxique pour les chats. La substance toxique qui est contenue dans le cacao, c'est la théobromine. Donc, pour nous, c'est pas toxique. Évidemment, c'est même bénéfique. Mais pour les chats, ça peut entraîner des troubles digestifs, des troubles neurologiques et même des troubles cardiaques, voire un décès. Donc, c'est vraiment très, très, très important de garder le chocolat hors de la portée des matous. Deuxièmement, les aliments trop gras en général. Donc, la nourriture qu'on lui donne au quotidien, ça suffit à satisfaire ses besoins nutritionnels, probablement la nourriture qui est conseillée par votre vétérinaire, Serge. Donc, c'est pas recommandé de lui donner des restes de table. Mais en plus, c'est que les aliments trop gras, ça peut provoquer des inflammations du pancréas. Et ça, bien évidemment, ça peut être dangereux pour nos chats. Ensuite, les desserts. Donc, outre le fait que les desserts pourraient contenir du chocolat, ce qui est vraiment à proscrire. Les desserts sont très sucrés et le sucre, ben, comme chez nous, hein, ça peut entraîner des pics d'insuline et évidemment aussi des problèmes dentaires, parce que oui, les chats aussi peuvent avoir des caries. Donc, on veut éviter les aliments sucrés, donc les desserts. Ensuite, la pomme de terre crue, ça, c'est un aliment qui est également pas bon pour les humains. C'est la présence de solanine que vous pouvez reconnaître à la couleur verte. Vous savez, ça, parfois sur les pommes de terre, à l'extérieur, on a des taches vertes.
Oui.
Donc, ça, c'est la solanine et c'est détruit par la cuisson. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter de manger les pommes de terre crues. Et comme pour les humains, bien, c'est néfaste pour les chats. Ensuite, l'oignon et l'ail.
Ah oui?
Donc, l'oignon, numéro 5, c'est l'oignon. La toxicité de l'oignon est liée aux composants soufrés et qui détruiraient les globules rouges chez nos chats. Donc, la consommation d'oignons, ça va limiter le transport de l'oxygène dans le sang et ça peut provoquer des diarrhées, des vomissements et une coloration des urines.
Et la mauvaise haleine.
Là, on parle de l'oignon cru, mais l'oignon cuit aussi, je pense. Pour l'oignon, on ne précise pas, mais pour l'ail, on précise que même cuit, c'est à éviter. Appartenant à la famille des liliacées, donc tout comme l'oignon, l'ail peut provoquer des graves intoxications. Les symptômes sont les mêmes donc pour l'oignon, diarrhée, vomissement. La coloration des urines, évidemment, ça, c'est pas quelque chose de néfaste, c'est plus une façon de reconnaître que peut-être qu'il y a une intoxication. Donc, c'est vraiment important de ne pas donner ces aliments-là à nos chats. Ensuite, les os de volaille, vous avez probablement entendu ça. Ce qui est dangereux, c'est donc les chats peuvent s'étouffer.
Mais oui.
Ça peut aussi provoquer une occlusion dans les intestins. Et si les os se cassent, ça peut même provoquer des déchirures dans l'appareil digestif. C'est des choses qu'on veut éviter à tout prix. Alors, on évite les os de volaille. C'est parce que c'est des plus petits os, hein, donc ils peuvent se casser. Le raisin, ça, je savais pas du tout, je sais pas de votre côté, mais il y a certaines molécules qui sont présentes dans le raisin qui le rendent toxique pour les chats. Quand il est avalé et digéré, il cause des dommages profonds dans les reins et les chats parviennent plus à filtrer les déchets qui sont naturellement rejetés par les urines. Donc, vraiment éviter le raisin.
Le raisin sec ou le raisin nature, frais?
Je pense que on ne le précise pas ici, mais probablement les deux, parce que c'est les molécules qui sont présentes. Donc, on ne précise pas si c'est détruit par la cuisson ou le séchage.
Alors, on ne prendra pas de risque.
Prenez pas de chance. Voilà. Évidemment, l'alcool. Alors, vous deviez vous douter qu'il ne fallait pas donner d'alcool aux chats. Donc, évitez de laisser un verre traîner, parce qu'on sait que les chats, c'est des grimpeurs. Donc, si on laisse un verre traîner après une soirée arrosée, ils peuvent décider que « Oh, ça a l'air que ça ». Et c'est hautement toxique. Évidemment, même une petite quantité peut causer des graves dommages au foie et au cerveau et jusqu'à entraîner un coma ou même un décès. Donc, rincez bien vos verres avant d'aller vous coucher. Et finalement, le café. Donc, la toxicité du café, c'est dû à la caféine, à aussi la théobromine hein, qui est présente dans le chocolat, mais aussi dans le café, et à la théophylline. Donc, ces trois éléments-là sont nocifs pour les chats. Les symptômes de l'intoxication au café vont ressembler à ceux de l'intoxication au chocolat, troubles digestifs, troubles neurologiques. Et évidemment, ça peut aussi provoquer des troubles cardiaques.
Donc, connaissez-vous des gens qui donnent du café à leurs chats?
Ben non, mais encore une fois, hein, des fois, on peut laisser traîner une tasse
dans ce sens-là, ouais.
Avec un petit fond de café, puis les chats, ben, ils vont venir lécher tout ce qu'on laisse traîner.
Ouais,
donc,
comme avec l'alcool. Ouais.
Voilà, donc faire attention à ne pas laisser traîner nos fonds de verre. Et voilà, c'est la conclusion. Cet article-là, je l'ai tiré sur le site, de Ziggy Family. C'est une boutique c'est comme une animalerie en ligne en France. Mais il y a un blog et il y a plein d'articles vraiment intéressants sur les animaux.
OK. Alors, c'était le top 10 des aliments de fête dangereux pour votre chat, parce que c'est vrai que quand on fait le party, il y a du chocolat, il peut avoir de l'alcool, il peut avoir des aliments trop gras, des desserts, etc. Mais comme vous dites, la patate crue, on peut en manger
toute l'année.
Il y a des plantes aussi dangereuses pour les chats.
Oui, évidemment, là, on mentionne les aliments que nous, on consomme. Mmh. Mais oui, peut-être qu'un jour, je reviendrai là-dessus. Les plantes aussi, il y a des plantes qui sont toxiques
pour
les animaux.
Merci.
Ton palais, c'est trois bouts de tôle, de planches de bois. Un paradis de bidonville qui s'appelle Favela. Sur les bidons, on peut tous y faire de la musique et refaire famille. Et on va la vie pour faire citer le soleil. Et on va la vie
c'est la conspiration.
Bon entendeur avec Nicoletta, la chanson Fio Maraviglia.
Beau souvenir actualisé. Alors, parlant de souvenirs, mais c'est toujours actuel parce que ça existe toujours cet endroit, la Binerie Mont-Royal. Il n'y a pas juste des bines à la Binerie Mont-Royal.
Oh, pas du tout, pas du tout. Tenez-vous bien, je vais vous énumérer quelques choses, quelques plats au menu. Sandwich au porc frais et à la graisse de rôti.
Oh, j'adore.
Fèves au lard, des bines. Maison, son maison cuite dans d'immenses fours. Rôti de porc, ragoût de boulette, pâté chinois, tourtière, soupe au pois, pudding chômeur, la Binerie Mont-Royal.
Mathieu s'en va là.
La Binerie Mont-Royal n'a jamais dérogé à sa mission d'offrir des repas québécois traditionnels. Si la Binerie a déménagé depuis décembre 2019, elle a conservé le même menu tout en offrant quelques nouveautés. Un article de Carole Anne D. Lebeau dans le Nostalgie hors série 2021. En 1938, le plateau Mont-Royal était un quartier populaire, peuplé de travailleurs canadiens français, mais aussi de différentes ethnies. Le 11 juin 1938, Joachim Lucier fait l'achat d'un petit local sur la rue Mont-Royal, à 100 mètres à l'ouest de la rue Saint-Denis, et fonde la Binerie Mont-Royal. Son frère Léonide, que tout le monde appelait Léo, lui donne un coup de main au départ. Léo deviendra propriétaire de la Binerie quelques années plus tard. Joachim Lucier voulait, en fondant son restaurant, perpétuer la cuisine traditionnelle québécoise. Très rapidement, la Binerie connaîtra un vif succès grâce à son menu, mais aussi à ses prix très abordables pour qui voulait manger un repas consistant le midi ou encore déjeuner dans la pure tradition québécoise. Le 13 juillet 1966, Léo achète le restaurant de son frère. Puis, quelques mois plus tard, il engage un jeune homme, Fernand Groux, qui s'intégrera très rapidement à la famille Lucier en épousant Claire Lucier, la fille aînée de Léo. Après avoir passé 40 ans derrière le comptoir de la Binerie, Léo décide de prendre sa retraite, sachant très bien que la relève est en place, puisque son gendre Fernand et sa fille Claire ont pris possession du restaurant le 4 août 1978. Le 10 mars 2001, de nouveaux propriétaires font l'acquisition de la Binerie Mont-Royal, mais Fernand et Claire s'assureront que la tradition des recettes secrètes soit respectée. Ces nouveaux propriétaires ne resteront pas très longtemps et passeront le flambeau à Suzanne Touchette et Bernard Deschamps en mars 2022. Finalement, le 17 novembre 2005, Jocelyne et Philippe...
En mars 2022, puis l'article date de 2021.
Oui, oui, oui.
Ah bon?
Non, non, de 2002, excuse-moi. Okay. Pardon, de, non, en mars 2002. Finalement, le 17 novembre 2005, Justine et Philippe Brunet font l'acquisition de la binerie Mont-Royal et ils en sont toujours les propriétaires depuis maintenant près de 15 ans. Alors, plus que 15 ans, on va aller à 19 ans.
Ouais.
La tradition, toujours la tradition. S'il y a une chose dont Philippe et Justine sont fiers, c'est d'avoir su perpétuer la tradition de la binerie tout en y apportant constamment des améliorations. Moi, j'ai travaillé à Ottawa et à Québec avant de passer 10 ans en France à travailler pour Disney, nous explique M. Brunet. Ma femme et moi cherchions un local pour nous établir à Montréal quand nous avons fait l'acquisition de la binerie. Nous avons rafraîchi les lieux, changé les comptoirs en érable massif. Nous avons cependant gardé les bonnes vieilles recettes secrètes. Ces recettes sont d'ailleurs notariées, figurez-vous.
Wow! Ouais,
oui.
Ça veut dire quoi, ça?
Notarié, c'est aller chez le notaire et t'enregistres le temps pour pas que personne les copie. Ça donne,
comme un brevet.
Oui, un genre de protection légale.
Ouais.
Depuis, puis aussi, si vous voulez les laisser à quelqu'un, ben, vous êtes
dans
le testament.
C'est pour pouvoir les léguer, j'imagine.
Ah oui, oui, oui.
Depuis le mois d'octobre 2019, la binerie Mont-Royal a changé d'adresse. Elle est maintenant au 4167 rue Saint-Denis, mais n'a rien changé à son menu.
Le décor a l'air tellement beau, là.
Oui. Mm-hmm. Nous voulions prendre de l'expansion. Nous avons finalement trouvé un endroit sur la rue Saint-Denis, l'ancien local du restaurant Steak Frites. Nous passons donc de 26 places à 96 places, une bonne amélioration. Nous avons ramené tout le matériel de l'ancienne binerie, dont nos fameux fours pour les fèves au lard. Nous avons fait l'acquisition de nouveaux appareils de cuisine, mais une chose n'a pas changé. Le menu et la qualité de nos mets traditionnels.
Bon, il faudra y aller pour en juger.
Oui. Il faudra s'organiser une sortie de gang, que j'appelle, moi.
On s'en va à Binerie.
On s'en va à Binerie à midi. Des petites anecdotes sur la Binerie Mont-Royal. Il y a plusieurs scènes d'un film qui ont été tournées
là. Ah,
bien
oui, Le Matou.
Le Matou.
Oui.
Tiré du roman d'Yves Beauchemin et mettant en vedette Guillaume le Métis Vierge, ont été tournés à la Binerie Mont-Royal en 1984.
À l'époque où la Binerie était située sur Mont-Royal.
Sur Mont-Royal, oui. Et un maire de Montréal est un client régulier de la binerie Mont-Royal, le maire Camillien Houd.
Ah, hey, ça date pas d'hier, ça.
Oui, non.
D'avant-hier.
Et lors du déménagement de la binerie Mont-Royal en octobre 2019, figurez-vous que l'enseigne extérieure originale était trop grosse pour être installée à la nouvelle adresse de la rue Saint-Denis. Ben, ce qu'ils ont fait, ils l'ont accroché à l'intérieur du restaurant.
Bon, moins. C'est pas perdu.
Oui. On a souvent dit qu'un hockeyeur célèbre était un homme du peuple. Un hockeyeur célèbre, c'est...
Maurice Richard.
Maurice Richard,
exactement.
Maurice Richard.
Oui. Difficile d'en douter, puisqu'il avait fait de la binerie un de ses restaurants préférés. Quand on va à la binerie Mont-Royal, on peut admirer les illustrations d'Edmond-Joseph Massicotte, qui a vécu de 1875 à 1929, nos Canadiens d'autrefois. La binerie produit 32 tonnes de fèves au lard par année. Elles sont cuites dans d'énormes fours en fonte qu'ils ont récupérés, qui ont déménagé, qui ont suivi.
C'est le secret.
Oui, le secret de la binerie Mont-Royal.
Et des bonnes bines.
Oui, alors vous laissez voir l'histoire de la binerie Mont-Royal.
Ah, bonne idée, Serge. Oui.
Alors, j'ai des petites brèves.
OK, on va faire une petite brève musicale.
Absolument.
Serge, vous avez des brèves pour nous.
Oui. L'expression « être gros gens comme devant ».
Ouais, on parle de quel Jean, là?
Jean J.E.A.N., le prénom, pas Jeunesse.
Oui. Okay, ouais. J'aurais dit Jeance.
Ouais. Un peu vieillotte, l'expression est aussi très énigmatique. Elle apparaît en 1678 Imaginez-vous dans une fable de La Fontaine.
1678.
Oui. La litière... La litière. On parle de chat, franchement.
Oui, vous êtes dans le thème. Oui, oui.
La laitière et le pot au lait.
Oui, bon. Oui, oui.
Mais qui est donc ce Jean? Au 17e siècle, à une époque où ce prénom est très répandu, il incarne Monsieur Tout-le-Monde, l'homme du peuple. Le pauvre Jean est alors maltraité dans de nombreuses tournures, aujourd'hui disparues, à l'exception de Jean Foutre, qu'on n'emploie pas tellement ici, c'est plutôt en France. Là. C'est quelqu'un sur qui on ne peut pas compter.
Ah oui?
Ouais.
Un gros Jean comme devant?
Oui, Jean Foutre.
OK.
Jean Foutre, oui. Si Jean est qualifié de gros, cela se réfère plutôt à son esprit grossier qu'à son physique. C'est un grossier.
Vulgaire, oui. Pas de manière. Ouais.
Gros Jean est une sorte d'idiot du village, un benêt un peu lourdeau. Et sachant qu'au 17e siècle, le mot « devant » a le sens « d'auparavant ». L'expression était « gros Jean comme devant » signifie que, quels que soient les efforts fournis, on est revenu à la case départ.
Comme gros auparavant. Jean comme devant, bien, c'est super.
Comme auparavant.
On l'utilisait sans trop, connaître nécessairement l'origine.
Mm-hmm.
Malgré qu'il y a des auditeurs érudits qui sont certainement au courant.
Oui, oui, oui.
Une autre histoire qui
va vous intéresser, les addicts de chocolat ici. Là. La tablette de chocolat, ça vient d'où? La tablette en tant que telle.
Ça vient de chez Serge.
Oui, c'est chez Serge, oui. Introduit en Europe au 16e siècle, le chocolat a longtemps été uniquement consommé sous forme de boisson. Une pâte de cacao mélangée à de l'eau. Un breuvage réservé à l'élite qu'on achetait chez les apothicaires.
Ah oui, c'était le quick, ça, là.
Comme remède à tous les maux, et les confiseurs, c'était pour la gourmandise. En 1847, les Fry ont l'idée de mélanger le beurre de cacao du chocolat en poudre, mis au point par le chimiste Conrad van Houten en 1828, et du sucre.
Je la vois, la boîte, le cacao, c'est jaune, puis on peut lire Fry.
Ils obtiennent alors une pâte qu'il est possible de verser dans des moules rectangulaires. Le chocolat à croquer est né, baptisé d'un nom français, « chocolat délicieux à manger », c'est le nom.
Mm.
On vous vend du chocolat délicieux à manger. Cette tablette granuleuse va révolutionner l'industrie chocolatière. Et l'expression « l'argent n'a pas d'odeur », savez-vous d'où ça vient?
Je l'ai déjà su, mais là, je pense que je vais vous laisser aller. Isabelle ou Mathieu?
J'ai aucune idée.
Non.
Alors, il faut que je retrouve dans mon...
L'argent n'a pas d'odeur. On prend le cash,
oui,
quoi qu'il sente.
Alors, ça se passe dans la Rome antique. Alors, ça a rapport à l'urine.
OK.
OK.
Isabelle n'est pas sûre, là. À Rome, dans l'Antiquité, l'urine vaut de l'or. Vantée pour ses propriétés thérapeutiques et désinfectantes, là, excusez, mais il faut que je le lise, c'est notamment utilisé en bain de bouche.
Comme rince-bouche?
C'est ce qu'on nous dit.
Ouais.
Je n'ai pas vérifié, là. Hein?
Mais je sais qu'à un moment donné, il y avait une mode où les gens, certaines personnes buvaient leur urine.
Dans les trucs naturistes, là.
Ouais.
Où on faisait des jeûnes, puis en tout cas... Je ne serrerai pas ça. Elle est aussi prisée par les teinturiers qui trempent leur linge dans ce liquide riche en ammoniac. Ça, c'est connu depuis longtemps. Afin de renflouer les caisses de l'Empire, mise à mal par 2 ans de guerre civile, l'empereur Vespasien introduit au 1er siècle une taxe sur les produits des latrines. Pris à partie par son fils Titus, qui juge ce prélèvement avilissant, Vespasien lui met sous le nez le premier argent qu'il perçut de cet impôt et lui demanda s'il sentait mauvais, selon Suétone. Autrement dit, l'argent n'a pas d'odeur. Alors, en plus du proverbe, cet empereur, Vespasien, inventif, nous lègera des urinoirs publics baptisés en son honneur Vespasienne.
Oui, les Vespasiennes.
Oui. Et savez-vous que ça, c'est un impôt sur l'urine? J'ai encore un petit peu de...
Oui, vous avez un petit 2 minutes.
L'impôt sur la barbe.
L'impôt sur la barbe.
En Russie, à l'époque des tsars. À la fin du 17e siècle, le tsar Pierre le Grand déplore les longues barbes de l'aristocratie moscovite qui jure avec la mode en vigueur dans les cours européennes. Pour en venir à bout, Il instaure en 1698 une taxe sur la barbe. Quiconque se laisse pousser le poil au menton doit s'acquitter d'une somme pouvant aller jusqu'à 100 roubles, une somme, je pense, à l'époque assez quand même consistante. En échange, les barbus reçoivent un jeton de bronze frappé de la mention « Dingu Vzlali, l'argent a été perçu ». Alors, j'ai payé mon dû, qui leur permet d'échapper aux brigades du tsar, lesquelles n'hésitent pas à raser les réfractaires en public. Alors, on y va.
Wow.
Tiens-toi, on trace en public.
Mathieu le barbu.
Oui, Mathieu,
qu'est-ce que vous en pensez?
Et savez-vous qu'il y a déjà eu...
Il y a autant s'abstenir.
Il y a déjà eu un impôt sur les portes et les fenêtres.
Oui.
Plus une maison est grande, plus elle est percée d'ouvertures. C'est à partir de cette idée simple qu'est instauré l'impôt sur les portes et fenêtres, appliqué en France par le directoire en 1798. Alors, c'était importé en Angleterre et ça conduit, hélas, à la prolifération d'habitations confinées et insalubres. Parce que vous ne vouliez pas payer de gros impôts, là, vous calfeutiez vos portes, vos fenêtres. Et cette contribution a rapidement surnommé « taxe sur l'air et la lumière » cause de graves fléaux sanitaires, puisque rachitisme et tuberculose prospèrent dans les environnements obscurs et mal élevés. Mal aérés, pardon. Dieu donne l'air aux hommes, la loi le leur vend. Fusille Victor Hugo dans les Misérables, son roman publié en 1862.
Taxe sur l'air et la lumière.
Et ça a perturbé en France jusqu'en 1926.
Oui, ça a perturbé.
Perduré, oui.
Merci Serge, merci Isabelle.
Je vais faire mes mots ce matin, là.
On vous aime.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Et c'est la chronique cinéma avec Louise-Véronique Sicotte qui est devant moi. Bonjour Louise-Véronique.
Bonjour Hélène.
Chronique d'une ville de Nadine Gomez, c'est un film que vous avez vu. Vous allez nous parler de trois films et on commence par celui-là. Est-ce que c'est un film québécois?
Oui, bien sûr. Oui. Elle a étudié à l'UQAM.
Bien sûr.
Nadine Gomez.
C'est évident.
Ben, en fait, j'essaie de privilégier les films faits au Québec quand je fais mes chroniques. Et Nadine Gomez, elle s'est beaucoup intéressée, elle a toujours fait des documentaires jusqu'à maintenant, elle s'est beaucoup intéressée aux villes, que ce soit un quartier de Montréal, que ce soit la ville d'Athènes. Et là, cette fois-ci, c'est une chronique d'une ville, mais d'une ville des villes, on pourrait dire. C'est un film...
Les villes ne sont pas nommées, ou la ville, ou...
On les reconnaît d'une certaine façon, mais c'est quand même... c'est pas des villes qui sont, vraiment identifiées.
D'accord.
À la fin, bien sûr, on sait où ils ont été tournés. C'est un film, un documentaire plutôt expérimental dans sa façon d'être, la façon de faire, Nadine. Elle préfère plus le style expérimentation. C'est une réflexion sur notre rapport à la ville, mais la ville qu'on habite et la ville qui nous habite. La ville a une présence, la ville a une influence sur nous. Alors, elle nous amène dans une réflexion à travers des villes comme Mexico, Tokyo, Nagasaki et un petit peu de Montréal, qu'on va reconnaître. Elle nous montre des personnages, des habitants de ces villes qui se confient à nous, qui ont un rapport intime aussi avec leur ville, qu'ils vont découvrir ou qu'ils veulent fuir. En fait, c'est un documentaire sur notre rapport intime face à la ville. Il y a aussi l'élément du téléphone. Alors, certains personnages vont parler au téléphone, vont se confier au téléphone, vont à eux-mêmes, en fait, ils vont se laisser des messages ou ils vont parler à quelqu'un, on ne sait pas qui. Alors, il y a, par exemple, cette jeune fille qui arrive à Tokyo en train, qui va découvrir la ville avec ses appréhensions. Il y a cette jeune Mexicaine qui est en vélo la nuit, qui réfléchit sur le temps. Il y a cette femme de chambre au Mexique aussi qui se confie également au téléphone. On va voir rentrer dans une piscine, la piscine de ses clients, et qui va se mettre à flotter pour... échapper à son quotidien. Donc, c'est très impressionniste. Des images de foule aussi qui attendent au coin des rues, beaucoup de ralentis, environnement sonore très enveloppant. Elle aime jouer sur les contrastes, Nadine Gomez. Par exemple, on est en haut d'une grue et qui surplombe la ville. On est dans le fond d'une rivière polluée par les déchets de la ville. Alors, la ville est montrée sous différents aspects. On dit que la ville est à la fois magnétique et toxique.
Est-ce qu'on l'entend beaucoup, la ville?
On l'entend, on la voit le jour, la nuit. C'est très, comme je vous disais, très impressionniste. Une sorte de errance, en fait.
Quel est le but de ce film-là?
Le but de ce film-là, je pense que c'est une réflexion sur notre rapport à la ville.
Ouais.
Mais c'est un film à la fois contemplatif et interrogatif.
Mais quand vous parlez de rapport à la ville, c'est quoi exactement? Comment ça s'exprime, ce rapport-là?
Il y a certains personnages qui habitent ces villes qui vont parler de leur rapport à la ville. Mais c'est de manière très, très intimiste, en fait. Ce n'est pas un documentaire.
Un exemple.
Ben, en fait, par exemple, cette jeune étudiante qui arrive à Tokyo, elle est dans le train, elle arrive à Tokyo, elle parle au téléphone et elle a ses appréhensions sur qu'est-ce que la ville, comment je vais vivre dans cette ville, dans cette grande mégapole.
Elle se sent un peu dépassée.
Et plusieurs de ces personnages-là sont dans une forme d'errance dans la ville. Alors, c'est très, comme je vous disais, très impressionniste. C'est beaucoup de ralenti.
Est-ce que c'est bon?
Oui, moi, je pense que c'est un essai qui est très captivant, très mystérieux de notre
vous
rapport à la ville.
Vous avez été captivée,
oui,
justement.
J'ai été captivée.
Du début à la fin.
Du début à la fin, en effet.
C'est donc à voir.
Mais c'est très particulier. Et ah oui.
Un film méditatif.
Oui, méditatif. Et Natine Gomez prépare un premier long métrage de fiction. Que j'ai hâte de voir.
Alors, c'est à suivre
c'est à
aussi.
Suivre.
Nadine Gomez.
Oui.
Autre film, cette fois réalisé par Sylvain L'Espérance.
Oui. L'an dernier, peut-être il y en a qui s'en souviennent, j'avais parlé de son précédent film qui était Archéologie de la lumière. Il s'intéressait à la lumière. Cette fois-ci, il s'intéresse à la marche, marche commune. Alors, c'est un film collage, c'est-à-dire que ce sont des extraits qu'il a choisis à travers le cinéma mondial, de toutes les époques, de tous les pays, que ce soit cinéma américain, européen, asiatique, africain. Et ce qu'il nous montre, ce sont des gens qui marchent. Alors,
des marcheurs, des promeneurs?
Parce que ce sont des extraits de films, de fiction.
Oui, oui, oui.
Et c'est ça qui est fascinant, parce que ce sont des courts extraits, parfois reliés en thématique, parfois non. Thématique, par exemple, des gens qui descendent des escaliers, qui montent des escaliers. Mais ça peut être aussi des plans larges, vues aériennes de foule qui marche, ou bien des gros plans de pas.
Est-ce qu'il y a des dialogues ou c'est plutôt
c'est
environnement sonore?
C'est muet.
Ah oui?
Oui, c'est muet.
On est dans le silence total?
On est dans l'ambiance, la bande sonore réelle des films. Mais il a choisi des films de différents réalisateurs toutes les époques.
Comme
mais,
qui?
Mais en fait, oui, il y a toute la liste, la longue liste au générique de fin. Mais en fait, il ne veut pas qu'on les identifie. Donc, il a choisi des plans, des séquences qui sont presque anonymes, en fait. On ne sait pas. Et puis, justement, il ne voulait pas...
Il n'y a pas de jeu là-dedans.
Il ne voulait pas qu'on passe notre temps à se dire « Ah oui, je reconnais cette séquence-là. Ah oui,
c'était pas ça, l'objectif. »
C'est pas ça qu'il voulait, justement. Alors, c'est vraiment des plans qui sont plus, on pourrait dire, anonymes.
Avez-vous reconnu quand même des films?
Oui et non. En fait, il ne voulait pas, justement. Donc, c'est très, très... certains personnages, peut-être. Alors, mais c'est aussi beaucoup par rapport aux intentions. Quand quelqu'un marche... Alors, l'atmosphère, est-ce qu'ils sont aux aguets? Est-ce qu'ils sont en fuite? Est-ce que
le
ils
pas
ont
dit
peur?
Beaucoup.
Le pas dit beaucoup, mais l'expression faciale également.
Oui.
Oui. Alors, ça a été une longue, longue recherche de choix de ces extraits.
D'extraits, oui.
Parce qu'il y en a grande quantité. Et on devient captivé. Parce que là, c'est là qu'on se rend compte que...
Encore une fois, vous avez été captivé avec Chronique d'une ville.
Oui,
et puis là,
oui, parce que c'est son 14e documentaire. Et c'est toujours une forme très, très spéciale, très... Et on est vraiment captivés, je vous dirais.
Marche commune.
Marche commune.
Diriez-vous que c'est un film grand public?
Pas nécessairement pour les cinéphiles. Je pense que ça peut être pour tout le monde.
Ouais.
Parce qu'on est captivés par...
C'est original comme proposition.
Oui, c'est très original. C'est très original.
Ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de cette création-là.
Je pourrais pas vous dire, mais... J'aimerais peut-être juste vous lire une citation à la toute fin dans ce qu'il dit. Il dit « Face à la mémoire du cinéma, c'est comme si on se retrouvait devant un océan. Les films sont enfouis au fond de la mer et seuls quelques fragments arrivent sur le rivage.
C'est beau.
Alors, il nous offre en fait ces fragments.
Des pépites.
Des pépites.
Ouais. Marche commune, oui. C'est le titre du film qu'on peut voir actuellement.
On peut voir, oui, bien sûr, on peut le voir à la Cinémathèque, mais il y aura aussi une présentation en présence du cinéaste.
Ah, intéressant.
Le 25 janvier au cinéma public et le 1er février au cinéma moderne.
Cinéma public, c'est où ça?
Bonne question.
Oui, on va regarder ça.
Au centre-ville.
Parfait. Et on termine avec un film. Lui, on a vu pas mal de bandes-annonces circuler. Film qui s'intitule Capitaine.
Oui, Capitaine. Premier long-métrage de fiction réalisé par William Mazzolini-Valen.
Le connaissez-vous?
Non, je ne le connaissais pas. Il a fait beaucoup de courts-métrages et il a travaillé aussi beaucoup en publicité. Et il est d'origine à la fois inoue et italienne. Et il a vécu dans une communauté où, bien sûr, les souvenirs douloureux des pensionnats sont encore présents. Il a voulu parler de ces souvenirs-là, de ces communautés qui sont encore affectées par ces douloureux souvenirs, en fait, ces épreuves. Alors, il nous présente un film de fiction qui est...
Là, on sort du documentaire.
Oh oui, là, c'est vraiment fiction, un peu suspense, je dirais.
Ah oui?
Oui, tourné en anglais et en langue Innu-Emun, sous-titré en français. La langue Innu-Emun a été longtemps bafouée, interdite, et là, elle est en présence dans ce film. Et c'est tant mieux parce qu'il y a une sorte de revalorisation de la langue autochtone.
Si on veut qu'elle soit vivante,
bien
il faut,
sûr,
faut
bien
l'entendre,
sûr.
Faut
et
la parler.
Je pense qu'il faut, faut souligner cet aspect-là dans le film. C'est un rapport difficile entre un père et sa fille. Père qu'on appelle capitaine, mais en fait, c'est un pêcheur de homards.
On ne l'appelle pas champion, on l'appelle capitaine.
On l'appelle capitaine. C'est parce qu'il a travaillé aussi dans la marine autrefois et il a été victime des pensionnats. Sa fille qui elle, veut, mon Dieu, qui veut changer de vie, qui veut quitter la communauté, qui veut partir. Alors lui, il a cette obsession-là qu'il veut garder sa fille dans la communauté, qu'elle reprenne le travail de la pêche.
Elle a quel âge, sa fille?
Ben, on la voit évoluer, elle devient une jeune adulte. Parce qu'il y a beaucoup de flashbacks dans les années 70, 80, 90, où on voit l'évolution de son rapport avec sa fille.
J'imagine qu'elle n'écoutera pas son père.
Elle n'écoutera pas son père. Donc, elle va quitter pour la grande ville, ville où il y a la drogue, la criminalité, donc toutes les appréhensions du père, évidemment. Et il va partir à sa recherche, à sa quête, parce qu'elle sera déjà partie à Montréal avec son petit ami. Je dirais que les bémols, en fait, c'est qu'au niveau peut-être du scénario. Le personnage principal est interprété par Wayne Charles Baker. C'est rare qu'on voit un personnage comme ça aussi dans le cinéma québécois. Un homme d'âge mûr, autochtone, qui a un rôle principal. Et ça peut rejoindre aussi, je pense, beaucoup des gens des communautés qui vont se retrouver, s'identifier dans ce personnage-là. Par contre, le bémol, c'est... Je trouve qu'au niveau du scénario, de la psychologie, ça piétine dans son obsession, dans sa rigidité par rapport à sa fille. Quand il va chercher sa fille, en fait, qu'il va en quête de retrouver sa fille, ça aussi, c'est un peu maladroitement tourné, je dirais, au niveau du scénario.
Est-ce qu'il y a des moments d'émotion?
Il y a des moments d'émotion. Je pense que beaucoup dans le non-dit, parce que c'est un personnage aussi qui ressent beaucoup dans des émotions, mais qui a du mal à les exprimer, comme ça a été le cas aussi pour bien des personnes qui ont vécu ces traumatismes-là. Le non-dit est très présent aussi dans ce film. Mais je dirais que c'est quand même une bonne valorisation de la présence des Autochtones dans le cinéma québécois.
Ne serait-ce que pour ça,
ça vaut le détour.
Capitaine, un film qui est à l'affiche.
Oui, l'affiche, au cinéma Beaubien.
Parfait. Le cinéma public, c'est au 505 rue Jean-Talon-Est.
Ah.
Et en passant, je ne sais pas si vous êtes au courant, j'imagine que oui, plein écran qui...
Oui, mais bien sûr, je voulais vous en glisser quelques mots.
En quelques secondes.
Quelques secondes. Bien, ça commence ce soir. Et ce sont des films accessibles, des courts-métrages. Il y en a 36 gratuitement partout au Canada, en ligne. C'est jusqu'au 31 janvier. Il y a 4 films par soir qui sont accessibles 24 heures seulement. Alors, des courts-métrages de tous les types.
Louise, Véronique Sicotte, c'est toujours un plaisir.
C'est toujours un plaisir.
À la prochaine.
À la prochaine.
voudrais pas dire ça à personne, mais j'aimerais ça t'écrire des poèmes avec des beaux mots qu'on comprend pas, ni un ni l'autre. J'aimerais ça qu'on se fasse une soirée avec des petites fleurs pis des chandelles, mais je trouve ça kitten pour mourir, pis toi aussi. Au pire, on ira ensemble, on mangera du Kraft Dinner, c'est tout ce qu'on a besoin. Au pire, on ira ensemble, on mangera du Kraft Dinner, c'est tout ce qu'on a besoin. J'aimerais ça danser un slow avec toi, mais on est tous les deux trop maladroits. J'aurais peur de te marcher dessus puis de casser un orteil. J'aimerais ça qu'on se regarde dans les yeux puis qu'on se dise des belles affaires. Ça sortira peut-être tout à l'envers, ben au moins nous autant se comprendre. Au pire, on rira ensemble, on mangera du Kraft Dinner, c'est tout ce qu'on a besoin. Au pire, on rira ensemble, on mangera du Kraft Dinner, c'est tout ce qu'on a besoin. De toute façon, il était rendu trop maigre. J'ai le cœur engraissé, mais c'est correct. De toute façon, il était rendu trop maigre.
Des nouvelles du Canada francophone avec Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
Julien, le Canada dépasse sa cible d'immigration francophone hors Québec.
Oui, pour une deuxième année consécutive, ça a été annoncé en début de semaine. Le Canada a accueilli un peu plus d'immigrants francophones à l'extérieur du Québec que prévu en 2025. La cible établie par Justin Trudeau et que Mark Carney avait promis de respecter, c'était 8,5% pour cette année-là. Finalement, ça a été de 8,9% des immigrants qui sont arrivés à l'extérieur du Québec qui parlaient français. La Fédération des communautés francophones et acadiennes est contente de ce résultat-là. Elle estime que le gouvernement est en bonne voie pour atteindre le 12% qu'il s'est donné comme cible en 2029. Pour 2026, la cible, c'est de 9%. Un petit bémol dans tout ça, toutefois, si le pourcentage a augmenté, en réalité, le nombre d'immigrants francophones à l'extérieur du Québec a diminué de 1000 par rapport à 2024. Mais pourquoi? Mais c'est simple, c'est parce qu'on a diminué la cible totale d'immigration au cours des dernières années. Donc, on accueille moins d'immigrants au Canada. Même si on augmente le pourcentage de francophones, si on diminue au total, ça fait aussi un peu moins de francophones. Donc, c'est ce qui se passe avec ça.
Plus de détails dans Franco-Presse. Vous nous parlez maintenant de curling. Est-ce que c'est un sport que vous aimez, ça?
Un sport dont je suis proche, je ne joue pas, mais mon père a joué toute sa vie. Donc
je connais beaucoup.
Oui, oui. Après de 80 ans, il joue encore, il est encore meilleur que bien des jeunes.
Wow! Est-ce qu'il a participé à des compétitions importantes?
Peut-être provincial au Québec, mais pas plus que ça.
OK, on le salue. Quel est le prénom de votre père?
Reynald.
Reynald, qui joue au curling à 80 ans, c'est admirable.
Oui, mais là, on parle du gaboteur qui nous révèle l'existence à Terre-Neuve-et-Labrador d'une ligue de curling queer appelée Odds and Ends. Il y a plusieurs francophones qui participent à cette ligue-là, d'ailleurs. Ils ont parlé à quelques membres qui parlaient français. C'est un mélange d'équipes sportives et de clubs sociaux, sécuritaires, entre autres. Oui, c'est pour jouer au curling et se pratiquer, mais on s'amuse aussi, et on jase et on fait des rencontres. Le groupe permet aussi de faire de la sensibilisation, notamment lorsqu'ils sont invités à jouer avec d'autres groupes ailleurs, dans d'autres villes, dans la province. Il y a la ligue comprend des Terre-Neuviens, mais oui, aussi, il y a des Acadiens puis des Ontariens qui vivent à Terre-Neuve et Labrador. Puis, on accueille, oui, des personnes queer, mais aussi des alliés de la communauté. Fait que c'est un bel exemple de diversité et d'intégration.
Absolument. Un réseau de santé au Nouveau-Brunswick a finalement embauché 7 médecins du Québec.
C'est le réseau Vitalité du Nouveau-Brunswick, qui est une des régies régionales de santé de la province. Il dit dans l'article qu'elle avait reçu des manifestations d'intérêt de 246 médecins originaires du Québec au cours de l'automne. Tout ça, évidemment, en lien avec la controverse autour de la loi 2 au Québec. Parmi ces 246-là, il y en a 82 qui ont participé à une entrevue. Il y en a 13 qui ont fait une visite exploratoire au Nouveau-Brunswick. Et finalement, il y en a 7 qui ont seulement qui ont accepté une offre d'emploi soumise par le réseau depuis l'automne, depuis la crise.
Mm-hmm. Le 7 de moins au Québec, donc.
C'est ça. Le réseau Vitalité, c'est pas le seul à avoir recruté au Québec. Il y a aussi le réseau Horizon qui couvre une autre partie du Nouveau-Brunswick. De son côté, un peu moins précis, on dit qu'ils ont reçu 124 demandes de permis de médecins québécois, donc, mais que c'était 5 fois plus qu'en 2024. Cependant, il y en a juste 24 permis qui ont été délivrés à des médecins du Québec. Et on nous précise que ça ne veut pas dire qu'ils les ont, qu'ils sont déménagés au Nouveau-Brunswick, mais on ne sait pas combien il y en aurait eu si c'est le cas. Mais pour le réseau Vitalité, ces embauches-là ont permis de dépasser son objectif de recrutement 2025 de 64 %.
On passe maintenant à une nouvelle tirée de Le Voyageur.
Oui, qui nous parle des progrès pour les francophones de Témiscamingue Shores, la ville située à l'ouest du lac Témiscamingue, sur la frontière du Québec et de l'Ontario. On entame des démarches sérieuses pour améliorer les services en français dans la municipalité. Compte 25 % de francophones ou de gens qui parlent régulièrement français à la maison sur sa population de 10 000 habitants. Il n'y avait pas vraiment de service de politique de bilinguisme dans la ville ou de service en français dans la municipalité. Tout est à construire. Là, on ne parle pas nécessairement que le conseil municipal fonctionne de façon bilingue où on traduit tous les documents et les ordres du jour, mais au moins que les communications aux résidents et surtout les communications pour des choses urgentes soient bilingues. Il y a eu une première réunion entre les employés municipaux et l'Association canadienne française de l'Ontario de Témiscamingue qui a apporté un espoir aux membres francophones de l'association et de d'autres. Le comité est composé, oui, de ces gens-là, mais aussi de personnes qui travaillent à la ville et qui parlent français, qui ont le français à cœur. Ce n'est pas des gens qui sont là parce qu'on les a forcés, c'est des gens qui veulent vraiment améliorer la situation la francophonie, nous dit-on. Il y a des idées qui sont déjà sur la table, puis en plus, c'est qu'il y a un budget de disponible pour apporter des changements concrets. Donc, ce n'est pas un comité d'apparence pour faire des belles promesses. Exactement. Par exemple, on nous dit que pour les prochaines élections, on va encourager les francophones à se présenter pour les postes de conseiller. Puis je vous rappelle que lors de la dernière élection municipale en Ontario, là, qui a eu lieu il y a quelques années, il y a eu une conseillère de Témiscamingue Shores élue qui parlait français, mais c'était la première la première tout court qui était élue, la première francophone qui était élue au conseil de ville de Témiscamingue Shores.
On mesure le progrès donc.
Exactement.
Un siècle de mobilisation francophone en Alberta.
En 2026, l'Association canadienne française de l'Alberta va célébrer ses 100 ans. Je vais vous donner un petit point de comparaison. Là, je vous en ai parlé avant Noël. La Fédération des communautés francophones et acadiennes, elle, fête seulement ses 50 ans. Donc, l'ACFA est deux fois plus vieille. Elle est donc créée officiellement en 1926, parce qu'on avait commencé à en parler en 1925. L'ACFA avait pour objectif de permettre aux franco-albertains d'améliorer l'enseignement du français et de renforcer l'influence des francophones dans la province. Et c'est un bel exemple de persévérance parce que, comme pas mal tous les autres francophones du Canada, les franco-albertains ont obtenu le contrôle de leurs écoles seulement en 1994, donc c'est beaucoup plus que 50 ans plus tard. L'ACFA également était à l'origine de plusieurs initiatives, là, comme la création de journaux, l'installation des radios francophones, puis appuyer la création de diverses autres associations francophones en Alberta. Puis au cours de ces 100 ans-là, il y a eu plusieurs défis, dont celui du financement qui existe toujours aujourd'hui. L'historien Denis Perrault, dans l'article du Franco, révèle que la trésorerie initiale de l'ACFA en 1925 comptait 20,25 $, ce qui équivaut à 360 $ aujourd'hui.
Bien, bon centième à l'ACFA. La francophonie canadienne remercie François Legault.
Oui, on ne peut pas dire que la démission de François Legault a eu les mêmes vagues au Canada français, mais qu'est-ce que ça a eu chez vous comme vague dans les médias? Mais en explorant son bilan sur le sujet de la francophonie canadienne, on se rend compte qu'il a fait beaucoup de choses au cours de son mandat pour rapprocher le Québec des autres francophonies. Pour la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, Liane Roy, c'est l'amour de la langue française de M. Legault qui faisait de lui un allié naturel pour la francophonie canadienne. Puis il l'a montré assez vite. Hein. Je vous rappelle que c'était seulement 6 semaines après son élection en 2018 que le gouvernement de l'Ontario a coupé le financement pour la création de l'Université de l'Ontario français et aboli le poste de commissaire au service en français. Puis M. Legault avait rapidement exprimé son appui à la cause franco-ontarienne. Puis en 2021, en pleine pandémie, le gouvernement a organisé le sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes. C'était organisé en collaboration avec la FCFA. C'était entièrement en ligne, évidemment. Puis ça a mené... puis même M. Legault était présent à la fin, à la cérémonie de fermeture, pour signer un document d'intention. Puis un an plus tard, ça a mené à une nouvelle politique en matière de francophonie canadienne. Liane Roy ajoute à tout ça aussi la loi 96 parce qu'elle nous dit que ça a donné une responsabilité transversale à tout le gouvernement québécois, responsabilité envers la langue française et sa promotion et son amélioration et sa préservation, ce qui a facilité aussi la relation avec les organismes de la francophonie canadienne. On n'avait plus juste un interlocuteur. Puis finalement, elle fait remarquer que la loi sur la découvrabilité des contenus francophones qui a été adoptée récemment porte le nom de loi sur loi de la découvrabilité des contenus francophones et non de la découvrabilité des contenus québécois. Donc, c'est un autre clin d'œil à la francophonie canadienne.
Et on termine avec une bonne nouvelle qui concerne Lisa Leblanc.
Vendredi dernier, l'artiste acadienne a été faite chevalière de l'Ordre des arts et des lettres de la France. Ce qui est particulier, c'est pas la première, mais ce qui est particulier dans son cas, c'est qu'elle a été adoubée dans la salle qui porte son nom. Donc, la salle Lisa Leblanc dans l'école L'Étoile de l'Acadie, qui se trouve dans la petite ville de Rogersville, c'est entre Moncton et Caraquet. Pendant la cérémonie, il y a quelqu'un qui avait entendu parler d'une anecdote et qui l'a raconté. Il disait que quand elle était jeune, à la messe du dimanche, il y avait sa grand-mère qui jouait de l'orgue, son oncle qui jouait de la guitare, puis ses tantes qui étaient dans la chorale. Puis, à peine le chant terminé, on a entendu dans l'église la petite Lisa chanter « We will rock you ».
Oui, ça devait être assez spécial, cette chanson de Queen dans une église.
Effectivement, et ça montre déjà son
caractère, sa personnalité. Exactement. Forte. Ouais.
Et son style différent des autres aussi, ouais. En musique. Donc, comme je disais, ce n'est pas la première artiste acadienne à être nommée chevalière. On compte aussi Antonine Maillet, décédée l'année dernière, Viola Légère aussi, décédée il y a quelques années, et Edith Butler, entre autres.
Toujours en vie, Edith Butler, qui a d'ailleurs collaboré avec Lisa Leblanc sur son plus récent album, l'album d'Edith Butler. Bien, merci beaucoup, Julien. Passez une belle journée et une bonne semaine.
Vous aussi.
Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve, je l'espère bien, demain à compter de 9h30. Merci Mathieu à la mise en onde. Ici Hélène Denis, passez une belle journée.